Sud Radio 10h midi, Valérie Expert, Média.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le lundi 10 mai 2021. 10 mai, ça vous rappelle forcément quelque chose. Il y a 40 ans, François Mitterrand accédait au pouvoir. Bonjour Gilles Ganzmann.
Bonjour Valérie.
Bonjour Georges-Marc Benamou. Merci d'être avec nous.
Bonjour Valérie, bonjour Gilles.
Vous êtes journaliste, producteur de cinéma. Vous aviez publié Le Promeneur du Champ de Mars, qui était devenu un film. Vous avez écrit Le Dernier Mitterrand. Vous avez été très proche de François Mitterrand. C'est pour ça qu'on vous a demandé de venir ce matin. Il y a une douzaine de documentaires, facilement, qui célèbrent, ou est-ce qu'on célèbre François Mitterrand. En tout cas, il y a une douzaine de documentaires qui lui sont consacrés. Demain, on aura Serge Moati avec nous, avec qui on parlera plus précisément du rapport de François Mitterrand avec la télévision. On pourra également en parler avec vous, puisque vous avez été très très proche de lui. Ça vous fait quelque chose aujourd'hui
Écoutez, moi j'ai été proche de lui à la fin. Moi, j'ai connu le roi, le monarque Mitterrand, malade. Je l'ai connu sur la pente descendante. Ouais. J'ai des souvenirs, bien sûr, très très jeunes du 10 mai, mais je le connaissais pas. Enfin, j'avais failli l'aborder dans la rue quelques mois avant, à côté du Café de Flore, il y avait une librairie. Moi, j'arrivais de Nice, je vois Mitterrand. Je voulais lui parler d'un de mes écrivains préférés, qui était Albert Cohen, qu'il aimait beaucoup. Je vais vers lui et puis je vois une jolie blonde sortir, lui prendre le bras. Je me dis, de toute façon, c'est pas grave, je lui parlerai dans 3 mois, il va être battu par Giscard. Voilà comment j'ai attendu près de 12 ans pour parler à Mitterrand.
Vous nous raconterez comment vous
Le 10 mai, à 10h07, vous savez ce que vous faisiez?
À 10h, le matin
parce qu'il a été élu dans la
oui,
journée.
Mais le matin, qu'est-ce que...
À 10h07, j'ai dû me... fâché avec ma jeune fiancée de l'époque, j'ai pris ma petite voiture et j'ai été travailler au Quotidien de Paris. J'étais permanencier à l'époque. On travaillait le dimanche. J'étais au Quotidien de Paris. On attendait les résultats et on ne savait pas d'ailleurs.
Oui, on ne savait pas du tout. Gilles, la question du jour, évidemment, elle est en lien avec ce 10 mai.
Évidemment, on retrace les 40 ans de l'accession au pouvoir de Mitterrand. Eh bien, est-ce que Mitterrand, pour vous, a-t-il été un bon président? Alors, vous êtes nombreux à voter. Il y a beaucoup, beaucoup de votes sur le compte Twitter de Sud Radio. Vous pouvez continuer à voter. Eh bien, pour l'instant, c'est non à 87% pour nos auditeurs, oui à 13%. Beaucoup de manipulations sur la population, des mensonges sur plusieurs sujets, nous dit Jean-Paul Bonal. Il faut avoir la mémoire sélective pour poser une question pareille, nous dit Blic. Eh bien oui, que voulez-vous? Il faut parfois commémorer des présidents.
On va en reparler. C'est surtout que c'est intéressant. Ce 87%, je rappelle, c'est une consultation, c'est pas un sondage. Oui. N'y répondent que ceux qui veulent. Gilles, on va passer aux
affiches. Si je comprends bien, il y a 87% des gens qui pensent que Giscard réélu en 1980 aurait été formidable.
Ça aurait été une meilleure chose.
Je voudrais me demander si c'est à 87%, s'ils auraient préféré que Giscard soit réélu. Imaginez Giscard un septennat de plus, on ne l'aurait pas supporté.
Mais peut-être que si. On ne sait pas. Votons. Gilles Le Zapping.
Sud Radio 10h midi, Média, l'instant zapping.
Plusieurs centaines de personnes et de policiers se sont réunis devant l'hôtel de police d'Avignon ce week-end, samedi, en hommage à Éric Masson, le brigadier de 36 ans, tué lors d'une intervention. Les anonymes étaient nombreux à être émus.
C'était important pour nous de venir montrer qu'on défendait notre police, qu'on était derrière eux, derrière nos forces de l'ordre. Je pense qu'on est... peut-être une majorité un peu silencieuse aujourd'hui. On ne sort pas forcément dans la rue tout le temps, mais voilà.
Ah, moi, ça m'a bouleversé. Je disais, ça pourrait être mon fils. Et ça m'a bouleversé, vraiment.
Ça aurait pu être notre fils.
Ah ouais, ça m'a vraiment... J'aurais jamais pensé qu'on puisse tirer à bout portant sur un policier.
Il y a beaucoup de gens, j'imagine, que vous reviendrez dans vos débats. Sûr. Au sujet d'Éric Masson, qui a été tué donc lorsqu'il intervenait sur un point de trafic de drogue. Mais pour Alexandre Touzet, il est vice-président du conseil départemental de l'Essonne, le cannabis n'explique pas tout.
Je ne crois pas à la seule réponse des stupéfiants. On a des violences totalement gratuites, notamment sur la classe d'âge des 13, 14, 15 ans, parce que les stupéfiants, c'est plutôt un peu plus âgé chez nous en Essonne. On a une haine du flic qui s'inscrit très profondément dans le pays. Et je crois que ça serait une erreur de dire il y a de la violence uniquement parce qu'on lutte contre les stupéfiants. Il y a autre chose qui monte dans le pays.
C'était dans le programme de Mitterrand qui voulait dépénaliser le cannabis, d'ailleurs. Dans les années, je me souviens de ça, comme quoi j'avais remarqué quelque chose dans son programme. Ouais. Et pour finir, pour continuer, la vaccination s'accélère, vous savez, aujourd'hui, sur les plus de 50 ans qui peuvent se faire vacciner. Eh bien, demain, Olivier Véran va remettre la blouse. Eh oui.
Cette semaine de pont, c'est une semaine de tous sur le pont, si je puis me permettre l'expression. Je prendrai moi-même d'ailleurs ma part à l'invitation d'une médecin que je viens de voir dans ce centre de vaccination. Et j'irai mettre la blouse le temps de la soirée de mardi dans un centre de vaccination pour prêter main forte à l'effort collectif.
Ça doit être cool de se faire vacciner.
Ça s'appelle de la com, non ?
Ben oui.
Jean-Marc Benhamou, ça s'appelle la com, non ?
Oui, enfin, il aurait dû le faire il y a 6 mois, quoi.
Bah,
il aurait dû, au lieu d'avoir le flageolement sur les vaccins entre le mois de décembre et le mois de mars et de créer des doutes dans la population, ils auraient dû prendre ce genre d'initiative bien plus tôt. Bien plus tôt, M. Véran.
Bien plus tôt, mais ça apparaît une fois de plus comme de la com qui se voit.
La com tardive est donc pas très bonne. Hein.
Pas très bonne.
Et si on fête le 10 mai 1981, il y a eu aussi le 7 mai 2017, l'année d'Emmanuel Macron, il y a 4 ans, pour le concert qui a été donné pour Emmanuel Macron. Oh, c'était pas vraiment comme le concert de la Bastille. Écoutez, c'est Quotidien qui a ressorti l'archive.
Est-ce que vous connaissez les Magic System? Mais pardon, les Magic System, vous les connaissez?
Si tu as Emmanuel Macron, table mère. Si tu as Emmanuel Macron, table mère.
C'était quoi ?
C'était le 7 mai à l'élection. On fêtait l'élection. C'était le concert qui était donné pour l'élection de Macron. Ouais. Et c'est Quotidien qui l'a ressorti. Évidemment, ce n'était pas la même chose que la Bastille. C'était évidemment pour faire un comparatif. C'était... Et pour finir, Mitterrand a certes changé beaucoup de choses en France, mais c'était aussi un amoureux des femmes. On pourra en parler. Mmh. Et il n'hésitait pas à draguer les journalistes. Rutel Krief s'en est souvenu dans C'est à vous.
Vous voulez toujours que je vous réponde à vous d'abord. Ça vous est jamais arrivé, vous êtes un peu déçu par.
Hein, bon, quoi. Vous êtes déçu.
Non, ça vous est jamais arrivé, répondez-moi.
Tout à fait.
Ça vous est jamais arrivé? Ça m'arrive à moi aussi. Et quand on dit ça, vous pensez sûrement à quelque chose.
En fait, il fait un numéro de charme parce qu'il a une démonstration à faire. Il est malade, on vient de l'apprendre, il veut montrer qu'il est gaillard et qu'il est bien là. Et en fait, moi, sur le moment, je vois pas ce troisième degré, mais ça instruit bien sur le personnage, quand même.
Voilà, ça, c'était
Le séducteur.
Gaillard, séducteur, oui. Séducteur.
Bon. Bah, oui, ouais. Mais toujours, c'est vrai, l'objet de les femmes et l'amour, c'était un des sujets de nos conversations pendant le déjeuner du samedi.
Ouais.
Beaucoup. Mais il en a toujours parlé. C'est ça que j'appréciais avec... Comme un Casanova, c'était son inspirateur. Oui, c'est vrai qu'il aimait Casanova, mais avec beaucoup de respect et sans jamais la vulgarité machiste ou paillarde qu'on aurait pu imaginer chez d'autres hommes politiques. Il y avait un rapport de passion, un rapport de séduction, mais en même temps une grande élégance. Je pense qu'il n'a pas laissé de mauvais souvenirs aux femmes. Il n'y a pas de dégâts, il n'y a pas de harcèlement, il n'y a pas toutes ces choses dont on parle aujourd'hui. Et de ce point de vue-là, il me fait penser à des mecs comme ça qui aiment les femmes, comme l'écrivain Romain Gary, mais qui sont toujours assez bien comportés avec elles. Voilà, à la différence de certains trousseurs de la politique.
Voilà, ça c'est dit. À l'occasion donc de ce 40e anniversaire de l'élection de François Mitterrand à la présidence de la République, France 2 va consacrer demain une soirée événement. Vous serez vous-même en débat avec Julien Bugier pour évoquer ses souvenirs. Vous disiez que vous l'aviez rencontré assez tard, François Mitterrand. Comment ça s'est fait, la rencontre entre vous ?
Assez tard, au sens où, effectivement, j'aurais pu le rencontrer en 81, comme tout le monde, etc. Je l'ai rencontré véritablement, le premier échange. C'est un méga interview que j'avais organisé au moment qui s'appelait... Tonton et nous, c'est-à-dire qu'au moment où la droite Chirac, Pasqua, première version, c'est pas Chirac, deuxième version, allait gagner les législatives de 86, on a fait une immense interview de la jeunesse avec Mitterrand, donc j'ai appelé Jean-Louis Aubert du groupe Téléphone, il y avait Valérie Caprisky, il y avait Renaud, et ça a été un entretien dans les salons de l'Élysée qui a duré toute une journée et qui a eu énormément de retentissement. Je l'ai revu véritablement et notre amitié s'est consacrée plutôt en 1992, quand j'ai fait un colloque sur l'Europe, et au moment où commençait à courir la rumeur de son cancer et peu avant sa maladie. Donc j'ai connu plutôt la partie des tempêtes et des maladies de la fin, qui était passionnante, mais un peu sombre, un peu shakespearienne. Aujourd'hui, il est à la mode, Mitterrand, mais à la fin,
Je sais pas s'il est est-ce qu'il est vraiment à la mode. Est-ce qu'il est à la mode et quand on voit les
il est à la mode à gauche. Enfin, il n'y a plus de gauche. Vous me direz. Enfin,
il y a malheureusement.
Il faut se souvenir qu'il apparaît à la fois comme une menace en 81, les chars soviétiques, etc. Très vite, il va s'imposer comme le monarque qui reçoit le monde en 1982 à Versailles. Il faut se souvenir pour les plus anciens. Mais ça va finir dans le scandale, dans les affaires de financement politique, la révélation de Mazarine, la révélation de son passage à Vichy, les affaires. Et le cancer, donc, à partir de 92, c'est vraiment les tempêtes, c'est ce que je décris. Ouais, c'est le monarque au crépuscule. Donc, c'est une autre époque que le 10 mai, glorieux, festif, Panthéon, patati, patata.
Et au final, vous répondriez quoi, vous, à la question qu'on pose ce matin à nos auditeurs sur Twitter ? Est-ce que ça a été un bon président ? Parce qu'on parle beaucoup aussi de l'héritage de François Mitterrand sur un certain nombre de choses, en particulier sur les conséquences de ce qui se passe dans les banlieues, SOS racisme, enfin, tout... Voilà, cet héritage-là.
Sur la question de l'immigration, faudrait dire...
C'était Giscard, le rapprochement familial.
Mais... aux 87% qui regrettent Valéry Giscard d'Estaing, que s'il y a une vague migratoire incontrôlée, avec des guillemets, etc., elle est due beaucoup plus à Valéry Giscard d'Estaing, qui a organisé le regroupement familial, dont on peut penser du bien et aussi du mal. Donc c'est Valéry Giscard d'Estaing qui est responsable de ce fait. C'est pas Mitterrand. Alors, est-ce que ça a été un bon président ou un grand président ? Vous savez, dans le film de Guédi Guian que j'ai écrit avec Gilles Torrent et adapté de mon livre, il y a cette phrase qui a beaucoup marqué : je suis le dernier des grands présidents. Ça, il me le dit le jour du dernier Conseil des ministres en mai 1995. Alors, je pense que ça a été un grand président au sens où c'est un règne long. Un des plus longs dans l'histoire de France, en tout cas dans le 19e ou le 20e, il comptait avec moi, un peu plus long ou presque Napoléon III, plus long que De Gaulle. Pour lui, l'orgueil suprême de son rival De Gaulle, c'est qu'il avait duré plus que De Gaulle. De Gaulle, c'est 11 ans, et chassé par une révolution, d'une certaine manière, dès 1968. Lui, c'est 14 ans, c'est le match des chefs gaulois, le match à distance, lui, a duré 14 ans. Il n'a pas été chassé par une révolution. C'est ainsi que les présidents ou les chefs pensent. Est-ce que ça a été un bon président ? Moi, je crois, qui n'ai jamais été gauchiste, ou 68 ans, j'ai jamais cru l'homme providentiel. Je crois que ce qui est très important en France, dans ce pays compliqué, c'est de faire tenir les Français ensemble. C'est la cohésion du pays. C'est que les Français s'aiment. C'est qu'il y ait des œuvres d'art. C'est qu'il y ait le moins de misère possible. C'est-à-dire que le pays tienne. Et on le dit aujourd'hui dans une période de chaos, de division, de fragmentation. Eh bien oui, Mitterrand était comme De Gaulle, après on peut les comparer, aimer l'un ou l'autre, un chef de la nation qui tenait à cette cohérence. Alors il y avait des problèmes, il ne faut pas être naïf, il y avait déjà des banlieues, probablement a-t-il été un peu conservateur, un peu frileux, peut-être était-il trop vieux, lui-même le disait lors de sa réélection. Pour moi, ça a été un de ces grands présidents français, avec des ombres et des lumières, mais plutôt un très bon. Et le dernier de cette lignée, parce que remarquez, après lui, Nicolas Sarkozy est battu.
Dont vous avez été conseiller.
François Hollande
ne
s'est pas représenté. On verra avec Emmanuel Macron, et je crois que c'est dû en partie, comme Mitterrand avait raison de le dire, à l'Europe qui a changé les règles, et surtout au bricolage délirant qu'ont fait un couple d'amateurs, excusez-moi de ma sévérité, qui s'appelle Jacques Chirac et Lionel Jospin, qui ont inventé cette chose aberrante, quelqu'un qui est là, et qui fait étouffer la démocratie. On élit les députés en même temps que les présidents, ça ne respire pas, et ce système va craquer. Donc, dans l'ancien régime, si je puis dire, de la Ve République, de ces septennats longs, Mitterrand a été, en tout cas, laissé une trace qu'on aime ou qu'on n'aime pas dans la vie politique, indiscutablement.
Mais d'un autre côté, Mitterrand et Chirac n'ont jamais voulu avoir de successeurs et ont tué dans l'œuf les Rocard et autres. Et s'il n'y a plus de gauche, c'est bien à cause de Mitterrand quand même.
S'il n'y a plus de droite, c'est à cause de Chirac.
Oui, non, mais vous êtes d'accord avec ça. Ils n'ont pas voulu avoir de successeurs.
Probablement. Je pense que le successeur qui était programmé pour Mitterrand et qui s'est cassé la figure, c'était Fabius, parce qu'il y a eu l'affaire du sang contaminé. Je crois qu'après, effectivement, il a fait un croche-patte à Michel Rocard et Clara Dutremont. Enfin, bon, Chirac aussi. Oui, Chirac qui aurait pu faciliter l'ascension de Philippe Seguin, par exemple, et qui n'en serait peut-être pas mort et qui aurait eu envie de vivre.
Quel rapport il avait avec son image, de ce que vous avez ressenti
C'est dur ce que vous venez de dire. sur le fait qu'il est que Chirac il est mort à cause de Chirac.
Je pense, je vais vous dire, j'ai je le dis pas aussi brutalement, mais il y avait quelque chose dans Philippe Séguin pour qui j'avais des désaccords, mais j'ai énormément de respect, d'inachevé dans sa vie, une tristesse à la fin de sa vie. Mitterrand disait d'ailleurs c'est le plus grand à droite. Et je crois que le fait d'être barré par sa famille politique, de se retrouver président de la Cour des comptes alors qu'il était peut-être appelé au plus haut destin, a amené une sorte de tristesse et de chagrin mortifère chez Philippe Séguin. Voilà, je l'ai écrit là-dessus, je le dis de manière plus précise. Hein, je ne dis pas Chirac l'a tué, non, bien sûr que non. Mais Chirac n'a rien fait et a tout fait pour qu'il chute. En particulier la mairie de Paris en 2000. Mais enfin, c'est une vieille histoire.
Ouais, et le rapport de François Mitterrand à son image, qu'est-ce que vous en diriez? C'est-à-dire, est-ce qu'il était soucieux de l'image qu'il allait laisser à la postérité? Ces promenades que vous avez faites avec lui au Champ de Mars, c'était aussi destiné à ça, à laisser une trace et... Est-ce que vous diriez ça, qu'il était préoccupé par l'image qu'il allait laisser?
Évidemment.
Et on le verra avec Moatti demain aussi, sur le fait qu'il a profondément changé tout ce qui était débat télévisé et autres. Mais qu'est-ce que vous avez ressenti justement à la fin de sa vie?
Oui, le contrôle absolu de l'image, mais pas au sens communicant, sondage, etc. Évidemment, comme un grand écrivain, comme Napoléon, contrôler son image en trichant sur le tableau, etc. Donc cette volonté de maîtriser son image par rapport à l'histoire, le dernier livre, La fin de sa vie, qui s'appelle Mémoire s'est interrompue, c'est une manière de sculpter sa stature, de reparler de ses erreurs ou de ses errances à Vichy, de raconter son... Il disait, on est toujours accablé par ses successeurs. Donc, effectivement, il voulait prendre le contrôle de son histoire. C'est élémentaire. Alors, là-dessus, il y a du narcissisme, mais c'est pas l'homme qui va... qui, selon moi, allait faire un sondage pour savoir si son image était bonne ou s'il fallait se marier avec un tel ou divorcer avec un tel.
Parce que c'était pas la mode non plus. Enfin, je veux dire, ça se faisait. Giscard était plus dans ces petites histoires-là.
Je pense qu'il est un homme politique. Qu'un de ces derniers, même s'il était machiavélique, ce qu'on veut, etc., il pouvait agir selon des convictions. Il ne lisait pas les sondages pour décider. Je ne dis pas qu'il ne faut pas lire les sondages. Aujourd'hui, malheureusement, les hommes politiques lisent les sondages et décident après. Je pense qu'il était encore de ces gens qui pouvaient avoir quelques convictions bien trempées, etc. Et au fond, il connaissait les Français. Alors, il fera les 87% qu'il n'aime pas. Je suis désolé.
Ça a peut-être changé.
Il collait à la France, à son territoire.
Pourtant, il a quand même cette image de monarque. Comme je l'ai écrit dans un livre, je répondais à cette question.
Si c'est un monarque, c'est pas Louis XIV. Ouais. C'est un des rois. L'un des premiers rois français, c'est un mérovingien, c'est un roi pauvre, c'est un roi croyant, c'est un roi terrien. Il n'était pas fastueux, quelles que soient les rumeurs de palais à Venise, etc. C'est un type qui vivait très simplement. Quand il vous invitait à l'hôtel à côté de l'âge, il fallait y aller dans la chambre.
C'est pas ce que racontaient forcément des gens qui ont été en cuisine à l'Élysée, qui racontent qu'il y avait quand même un faste, même dans l'intimité.
Ça, c'est l'étiquette. Ça, je suis d'accord.
Même dans l'intimité, c'est-à-dire des dîners...
Oui, mais il payait jamais parce qu'il n'avait pas d'argent. C'est peut-être les copains qui payaient. Chez lui, rue de Bièvre, et quelques fois où j'étais.
Oui, ou l'État.
Et à Latch, c'était une maison française bien tenue de la bourgeoisie moyenne et plutôt simple. Alors que, par ailleurs, il a eu le souci à l'Élysée de l'étiquette. D'une très bonne cuisine comme Nicolas Sarkozy avant lui, peut-être le seul exemple vertueux, c'est De Gaulle et Madame De Gaulle qui achetait son poulet et qui le payait elle-même. Dans l'exercice du pouvoir, il était assez roi soleil parce que, mais dans le privé, il était plutôt assez frugal.
La dernière fois que vous l'avez vu, c'était quand? Vous souvenez?
C'était 7 jours avant sa mort. Je le décris dans la dernière scène du dernier Mitterrand sur son fauteuil. Il a décidé depuis 3 heures. C'est-à-dire d'arrêter de s'alimenter. Il a annoncé à sa famille qu'il arrêtait les médicaments. Il nous annonce qu'il va mourir, au fond. Et commence sa mort choisie, qui va mettre quelques jours. Et je crois qu'il meurt quelques... Donc on est le 1er janvier, après le fameux réveillon des Ortolans.
Ouais.
Et c'est un regard terrible, et on imagine qu'on ne reverra probablement plus.
Vous le saviez le jour où vous, le dernier jour, vous saviez que ce serait...
Est-ce qu'on sait vraiment, mais il y avait quelque chose d'un adieu définitif assez bouleversant. Je revois son dernier regard.
Ouais. Et vous lui avez dit quoi ?
On s'est regardé longuement, il m'a regardé. Le dernier dans la pièce, les autres étaient partis. Quelque chose de l'adieu dans le regard.
Oui. Et c'est un souvenir, ce regard, vous l'avez encore en vous.
On vous sent ému, en fait.
Oui, c'est un homme que j'aimais beaucoup.
Oui. Gilles ?
Est-ce qu'il a des points communs avec Sarkozy ?
Sarkozy ? Pourquoi Sarkozy ?
Pourquoi Sarkozy ?
Oui. Pourquoi pas Macron ?
Ou Macron.
Pourquoi pas Macron ? Pourquoi pas Hollande ?
Pourquoi pas Hollande ?
Je ne sais pas, je crois que c'est difficile. Moi, Mitterrand, j'étais pas socialiste, j'étais plutôt un républicain de gauche, dans une tradition de Clémenceau, etc. Mais moi, ce qui m'a attiré, c'est cette dimension, je me trompais peut-être, un peu... hugolienne. Quand j'avais 8 ans, je le prenais pour Victor Hugo. Enfin, il fait partie de cette tradition d'une gauche hugolienne. Après, on découvrira des choses. Et il y a une densité littéraire et il fait partie des hommes comme... qui m'ont impressionné dans la vie, comme des hommes totaux, qui m'ont impressionné. L'abbé Pierre, Daniel Cordier, le résistant, le secrétaire de Jean Moulin et François Mitterrand. C'était des hommes totaux, c'est-à-dire des hommes d'action, des intellectuels, des écrivains, des hommes de cœur. Quand vous parliez, je l'ai rencontré un peu à l'abbé Pierre, vous avez l'impression qu'il était un chef des réseaux de résistance et qu'il pouvait faire lever un pays. Mitterrand, c'était un peu ça. Il y a des gens qui m'ont énormément impressionné.
Oui. Le documentaire de Gérard Miller, qu'il évoquait ce matin, L'homme qui ne voulait pas rompre, il évoque sa fidélité en amitié. On vous retrouve d'ailleurs dans ce documentaire, une fidélité qui parfois fait qu'il n'arrive même pas à dire aux gens qu'ils ne veulent plus d'eux. Ça, c'est quelque chose.
Fidélité
que avez...
dangereuse.
Ouais.
Oui, je pense que c'est. Oui, c'est. Alors, chaque fidélité a ses ressorts, bien sûr. Ouais. Oui, et ça a pu le mener à des erreurs.
Ouais.
Bien sûr.
Mais un homme fidèle en amitié et qui choisissait ses amis. Vraisemblablement. Oui. Bon, merci Georges-Marc Guénamou. On va vous retrouver un petit peu partout. Vous êtes en tout cas dans le documentaire de Gérard Miller. Il y a demain un autre documentaire sur France 2. Je crois que vous êtes également dans ce documentaire.
Un très bon documentaire,
je ne l'ai pas vu.
Oui.
Et puis demain,
non, je suis dans le débat. Oui.
Vous êtes dans le débat tout de suite après. On peut relire Le Promeneur du Champ de Mars et puis Le Dernier Mitterrand également, vos livres. Qui sont très éclairants sur ce qu'était François Mitterrand et en tout cas sur cette relation que vous avez eue avec lui à la fin de sa vie. Merci d'être venu ce matin sur Sud Radio. On se retrouve dans un instant pour parler d'un tout autre sujet, la protection animale. À tout de suite.